Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Nouveau podcast, parlons biz, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Hartheim, entrepreneur, investisseur, marchand de biens, etc., etc. Aujourd'hui, c'est le 27e podcast et ça sera le dernier podcast de l'année 2023. L'année 2023 qui, au final, si on fait un petit bilan, ce qui n'était pas prévu en fait, et je viens de décider de faire un bilan, c'était une belle année en marchant de biens. C'est maintenant la troisième année civile, on va dire la 2,5e année civile que je fais du marchand, et c'est pas mal. Bah, c'est plus que 2022 et j'espère que c'est moins que 2024. Donc voilà, moi j'ai un tableau là qui me regarde et où il y a écrit 1 million de trésorerie de cash en 2025. Donc voilà mon objectif, c'est d'avoir 1 million de cash, pas de patrimoine net, mais de cash sur mes comptes en banque, tout réuni, crypto, etc. Donc je l'ai carrément mis dans un tableau et il est là, il me regarde, je le regarde régulièrement, pas tous les jours, mais je le regarde. Donc ouais, c'était une belle année. J'ai lancé mon podcast aussi. J'ai lancé mon podcast en 2023. Qu'est-ce que j'ai fait de plus encore? J'ai fait plein de vidéos avec toute l'équipe Green Bull Campus. J'ai investi donc dans un immeuble de 3 lots, un appartement, 2 appartements, donc au total 5 OP. Avec les 2 OP que j'ai fait avec Yann Darwin et Philippe, ça fait 7 OP. Donc j'ai fait 7 OP en 2023 pour une marge nette dans ma poche à moi. On va dire, parce que bon, on est associé à 3 sur 2 OP, on est associé à 3 sur les 5 OP. Donc si je divise même maintenant par 3 juste le bénéfice net, on est 10, là on va prendre 40, ça fait allez, 12. Ouais, au final, j'ai pas fait grand chose hein, si tu regardes. Hein. Je pense que, allez, gros. Au max, j'ai pris 40 et au pire du pire, j'ai pris 30. C'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme en fait. Hein. De bénéf, mais dans 5 OP, comme je vous ai dit, dans 5 OP, on est 3. Donc, si je multiplie par 3 ce bénéf, ça nous fait quand même environ 80-90 000 euros de trésorerie, de bénéf, donc de trésorerie, parce qu'on ne l'utilise pas pour vivre, pour refaire marcher la boule de neige et taper plus gros et mettre de l'apport avec ce bénéfice-là. Donc, faut tout voir. On va récupérer notre apport perso. Déjà, on va avoir en moyenne, allez, on va donner des chiffres bas, et de toute façon, tout n'est pas vendu, donc je peux pas dire, mais on va donner des chiffres bas, on va récupérer 60 000 euros qu'on n'utilisera pas, on va juste récupérer notre apport et c'est 60 000 euros qui vont déjà nous permettre de mettre de l'apport dans un nouveau projet tout en gardant notre apport ou même un projet plus grand si on remet le même apport. Donc voilà, c'est toujours pareil, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Il y en a qui font rien, donc je préfère avoir que 60 000 euros et que rien du tout et squatter sur le canap. Parce que ces 60 000 euros, c'est 60 000 euros qui peuvent me permettre d'acheter 2 studios dans mon secteur. Donc ça, c'est cool. Ça n'était pas du tout prévu au programme que je parle de ça, du bilan de l'année 2023, mais en même temps, c'est le dernier podcast de l'année, donc automatiquement, il faut parler de ça. J'ai énormément appris. Encore une fois, hein, j'ai créé une copro, j'ai vendu à la découpe. J'ai énormément appris en étant aussi coach dans l'académie, parce qu'il faut continuellement se renouveler et apprendre pour pouvoir après bien transmettre son savoir. Donc toujours pareil, hein, si je fais le bilan de avant du 1er janvier et si je fais le bilan entre le 1er janvier et le 31 décembre, eh ben, je me suis enrichi mentalement, psychologiquement et financièrement, sachant que bah, j'ai fait le point la dernière fois, je rembourse en capital plus de 7 000 euros, toute association confondue. Donc, tous les mois, quoi qu'il arrive, je m'enrichis vu que je rembourse la banque de 7000 euros. Et ça, c'est extrêmement important. On avait une conférence mardi à 10h avec tous les membres de l'académie. On a fait une conférence tous les ans. Pour Noël, on fait une conférence les quatre coachs en même temps. Donc on était tous les quatre en direct pendant une heure et demie. J'ai dû les quitter avant parce que moi j'avais un rendez-vous qui datait de longue date avec un expert, je vous en parlerai aussi après, où on faisait des sessions de questions-réponses. Et on avait une question d'une personne qui nous demandait combien on attend de cash flow pour tant et tant d'investissement. Je sais que quelqu'un m'avait une fois dit, moi, pour 100 000 euros investis, je veux 100 euros de cash flow. Pour 100 000, je veux 100 euros de cash flow. Donc, j'achète un truc à 400 000, il faut que j'ai minimum 400 euros de cash flow. De cash flow, je parle. Mais c'est une question où on ne peut pas répondre, en fait. C'est une question qu'on ne peut pas répondre. Et la réponse, je remets dans le contexte, la personne qui m'avait dit ça, elle m'avait dit ça il y a 3-4 ans quand on avait des taux à 1. Hein, d'accord, et qu'on avait des banques qui ouvraient le robinet et qui nous prêtaient à gogo. Donc à l'heure actuelle, on ne peut pas répondre à la question combien de cash flow pour combien investi, parce que les taux déjà ont augmenté. Et du coup, tu n'as plus de cash flow. Hein, tu peux pas espérer le même cash flow avec 4,5% d'intérêt par rapport à 1%. Et pourquoi on ne peut pas répondre aussi à cette question? C'est que dans la question, enfin, le cash flow, c'est bien. Je ne dis pas c'est bien, il le faut, surtout pour enchaîner. Surtout pour enchaîner parce que tu prouves à ton banquier que tu sais faire de l'argent immédiat, que tu as un excédent de trésorerie, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais si tu as, j'ai une connerie, 500 euros de cash flow, mais tu fais une moins-value de 20%, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Donc moi, je regarde toujours, et encore plus depuis que je suis marchand de biens, la plus-value latente et le cash flow. Et il y a des biens qui ne génèrent pas de cash flow, mais qui ont une grosse plus-value latente. On appelle ça les biens patrimoniales. On sait que quoi qu'il arrive, on est assis sur quelque chose qui va prendre de la valeur et qui va s'améliorer avec le temps. Moi, je vous le savez, vous me suivez maintenant depuis presque un an, je me suis focusé uniquement sur le marchand. Donc quand je visite quelque chose, c'est dans le but de le revendre. À l'heure actuelle, je ne visite pas quelque chose dans le but de le louer, pour plein de raisons, parce que j'ai 3 enfants, parce que je me consacre plus au sport, parce que j'en ai aussi un peu marre, parce que j'ai beaucoup de LCD qui est très chronophage, parce que j'ai plus envie d'empiler les locataires, parce que j'ai envie de faire moins de social, de moins avoir à discuter avec les gens. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je préfère acheter, revendre et prendre aussi du cash immédiat pour le réinvestir, pour faire plus gros, etc., etc. Et je reviendrai sur du locatif plus tard, peut-être en mettant de l'apport et donc automatiquement en faisant peut-être des crédits plus courts parce que je vais vieillir, etc., etc. Je ne sais pas. On ne sait pas, on ne sait jamais en fait. Et cette question-là, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se posent énormément. Et ça, il faut absolument cette année. Et si vous écoutez ce podcast et que vous allez partir en vacances, aujourd'hui on est le 22 décembre, si vous écoutez ça entre Noël et Nouvel An, si vous écoutez ça à Noël, il faut absolument, 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 absolument que vous arrêtiez de vous poser des questions dans un horizon 10 ans, que vous arrêtiez de vous projeter dans 10 ans. Parce que moi, il y a 5 ans encore, je voulais 100 locataires, je voulais être rentier, je voulais vivre de mes rentes. À l'heure actuelle, c'est fini, je ne veux plus. Je veux plus ça. Et parce que si je fais 1 million de cash dans les 5 prochaines années, 1 million d'argent hein, sur mon compte, 1 million d'argent, je vais peut-être pouvoir faire fructifier cet argent-là en bourse et je vais pouvoir être rentier en bourse, ou je vais pouvoir utiliser ces 100 millions, ces 1 million et acheter plein de biens et mettre de l'apport et avoir encore une rente, mais peut-être juste avec 5 locataires. Donc, ce qui était mon idée principale il y a 5 ans n'est plus la même aujourd'hui, parce que moi j'ai évolué, parce que j'ai vieilli, parce que j'ai grandi, parce que derrière j'ai côtoyé d'autres personnes, etc., etc. À l'heure actuelle, je suis focus marchand de biens et je sais très bien que ça ne sera pas tout le temps comme ça. Donc voilà, c'est je vois extrêmement beaucoup de je vois beaucoup de gens qui se posent trop de questions sur l'avenir et qui ne regardent pas à court terme devant soi. Et à court terme devant soi, c'est quoi le plus important? C'est quoi l'unique chose à faire? C'est quoi la priorité de la priorité de la priorité à 5000%? Moi, je vous le dis, c'est moi pour moi la plus dure à faire à l'heure actuelle dans l'investissement immobilier ou marchand de biens, c'est de trouver un bien rentable. Et je m'explique encore une fois, un bien rentable, c'est un bien que tu vas acheter, tu vas payer les frais de notaire, tu vas payer les frais d'agence, tu vas payer les travaux, tous les travaux, tu vas soit emprunter à 110% pour tout faire, soit tu vas mettre 10% d'apport, payer encore les frais de notaire, les frais d'agence, et quand tu as fini le bien, quand le bien est rénové, ou même quand si tu ne le rénoves pas, tu sors de chez le notaire, tu le revends le lendemain avec minimum 20% de plus. Et ça, c'est ça la clé. C'est ça la clé. Et cerise sur le gâteau, si tu as mis un peu d'apport ou si tu arrives à avoir des taux de nouveau bas, et ça j'en reviendrai aussi, tu as par exemple 500 euros de crédit et 800 euros de loyer. Voilà, ça c'est pour moi les clés d'un bon investissement et la définition d'un bon investissement. Plus-value latente et cash flow. Cash flow est plus difficile à l'heure actuelle, mais on s'adapte et c'est là où je veux en revenir. Il ne faut pas que les taux hauts vous sclérosent, vous empêchent d'aller visiter, vous empêchent de passer à l'action, en fait. Parce que les taux ne resteront pas hauts éternellement. J'ai beaucoup de gens, hein, il y a un mois, j'ai parlé à quelqu'un qui était sûr et certain que les taux ne baisseraient plus. Il est sûr. Lui, il a vraiment une boule de cristal. Lui, il sait que les taux ne descendront plus, qu'ils resteront toujours comme ça. Soit. Et alors, donc tu fais plus rien. Je lui ai répondu, donc tu fais plus rien. Tu t'achètes plus rien, tu fais plus rien. Il faut juste se dire un truc que on a une chance extrême en France, c'est de bénéficier des crédits et de l'effet de levier. Donc je préfère acheter à 4% et me dire que... Maintenant, si on suit sa logique, moi je préfère acheter à 4% et sa logique c'est que ça ne baissera plus jamais et derrière, ça va augmenter encore, donc je serai content d'avoir un crédit à 4%. Et s'il baisse, je renégocierai. Voilà. Ma seule stratégie par rapport à avant, ou quand les taux étaient à 1, 1,2, 1,02, 1,03, 1,5, etc., 1,35, moi j'avais. Ma seule stratégie, par contre, c'est de mettre un peu plus d'apport cette fois-ci. Probablement payer les frais de notaire, les frais d'agence pour calmer la banque. Mettre un peu d'apport pour les travaux, peut-être ou pas. Et en fonction du projet, c'est toujours là ce que je dis, c'est le projet qui va conditionner après votre véhicule fiscal, qui va conditionner votre vision de la chose. En fait, ça sera que le projet, uniquement le projet. Et en fonction de ça, là, je saurai si je fais un crédit sur 15 ou si je fais un crédit sur 20. Perso, à l'heure actuelle, si tu empruntes à 4, un crédit sur 20, tu payes quand même beaucoup d'intérêts. Mais un crédit sur 20 te permet aussi de te dire que tu as 20 ans pour aller renégocier tes taux à la baisse. Donc voilà, c'est même pas des questions que je me pose, c'est des questions là maintenant qui me viennent à l'esprit quand je vous parle, mais c'est des questions que je me poserai uniquement le moment où j'aurai trouvé un bien rentable. Et je trouve que c'est le plus dur. Pour moi, c'est le plus dur. Pour moi, tu visites en ce moment et ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il faut faire des grosses négos, il faut argumenter à l'agent immobilier, argumenter au vendeur qu'il y a des travaux, que les travaux augmentent. Ça aussi, c'est encore autre chose. Mais le prix du mètre carré à l'heure actuelle, une réno totale, tu es à minimum 1200 euros. Donc tout ça, il faut que tu le saches, il faut que tu te formes. Donc là, je mets le lien en dessous du podcast. Hein. Vous avez l'Académie des investisseurs rentables. Vous avez aussi l'incubateur marchand de biens. Il faut que tu te formes pour prendre toutes ces datas, les calculer dans ton cerveau pendant ta visite et de sortir une offre adaptée, en fait. Parce qu'on n'est pas là pour faire plaisir aux vendeurs. On n'est pas là pour faire plaisir à l'agent immobilier. On est là pour faire une bonne affaire. Et la bonne affaire, désolé, elle se crée parce qu'elle est pas, elle te sert pas sur un plateau. Il y en a peut-être... une sur 1000, ouais même pas, une sur 100 000 où on te la sert sur un plateau. C'est tout. C'est tout. Sinon, ce serait trop facile. Tout le monde le ferait. Donc, la bonne affaire, elle va se chercher. Se chercher. Je reviens sur le dernier. Et là, à l'heure actuelle, je suis en train de forcer à fond pour qu'on puisse signer ce putain de compromis. J'ai visité trois appartements dans un lot de quatre appartements en 2018, en juin 2018 ou en juin 2019, je ne sais plus, un des deux. Et j'avais fait une offre à 95 et là, je vais signer un compromis pour ces mêmes trois lots, 4 ans après, à 60. C'est moi qui l'ai transformé, ce 95 en 60. Et même, il y avait un compromis qui a sauté à 134. C'est moi qui ai bousculé le truc pour que ça passe. Ça ne m'est pas tombé sur le bec comme ça. Donc voilà, par rapport à ça. Je voulais revenir aussi sur le lundi 11 décembre. On était en live à Paris avec toute l'équipe Green Bull Campus. Hein, donc il y avait Yann Darwin, Isis, Philippe, Nico et moi. On était sur un plateau télé et on a passé l'après-midi avec les ambassadeurs. Donc il faut savoir que chez Green Bull Campus, maintenant, il y a des ambassadeurs, donc des ambassadeurs par région pour l'Académie des investisseurs rentables, des ambassadeurs par région pour l'incubateur marchand de biens. Et en fait, ces ambassadeurs-là, leur rôle, c'est d'animer les groupes par région, c'est-à-dire en Zoom, c'est-à-dire en physique. Moi, j'étais en novembre à une réunion à Strasbourg avec les membres de l'Académie des investisseurs rentables. C'était super, on était plus d'une trentaine. Et là, il y a eu deux Zooms. Bon, moi, généralement, le soir, je coupe mon cerveau, donc je n'étais pas connecté, c'était à 20h30. Et là, il y a quelque chose qui est organisé en janvier. On va faire du karting avec les membres de l'incubateur marchand de biens du Grand Est à Strasbourg. Petit karting et après manger au resto. Et ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est le rôle des ambassadeurs. Le rôle des ambassadeurs, c'est de connaître vraiment les gens de son secteur, d'organiser ces soirées-là et de faire en sorte qu'il y ait des connexions physiques qui se fassent et potentiellement des associations. Et donc oui, on avait quatre ambassadeurs sur le live qui nous présentaient à tour de rôle des investisseurs et qui avaient des problématiques. Et nous, notre rôle, c'était de donner des tips à ces investisseurs pour qu'ils progressent, pour qu'ils passent un niveau supérieur, etc. Donc c'est super enrichissant, comme d'habitude. On a passé 24 heures à Paris. C'était voilà, c'était enrichissant émotionnellement. Ça fait toujours plaisir de se voir entre copains. Et j'ai eu un beau pull. Donc je tiens à remercier quand même Antonin de m'avoir offert un pull avec un logo d'une salle de boxe. Donc j'ai très hâte de refaire de la boxe. Comme vous le savez, j'ai une épicondylite fissucère, ça se dit, ouais, du coude droit. Donc pour l'instant, je prends mon mal en patience et je fais plus de boxe. Je fais de la musculation en attendant. J'essaye de faire de la musculation et ça, c'est je vais revenir sur ça. Je pars en moyenne 3 à 4 fois dans l'année dans un hôtel en pleine forêt, en Allemagne, en forêt noire. Et je pars généralement 2 nuits, 3 jours. Et ce moment-là, ce temps-là, les jours où je suis là-bas, j'essaye de couper au maximum. Je coupe jamais vraiment à 100%, mais j'essaye de couper au maximum. J'emmène des livres, des choses comme ça. Et vu que je suis loin. Vu que je suis loin, vu que y a pas de, je suis pas dans mon élément, dans ma maison, etc. Souvent, des prises de décision apparaissent à ce moment-là. J'ai remarqué que quand je suis là-bas, je dis maintenant, quand je rentre, je vais faire ça ou je vais prendre ça. Et donc là, j'ai pris la décision de prendre un coach muscu, vraiment physique. Un coach muscu. Je fais partie du Money Game. Dans le Money Game, vous avez des vidéos de formation tournées par Christophe Bonnefond et Dom Pierre qui vous expliquent les exercices pour faire la musculation correctement, etc. Mais là, moi, j'ai vraiment pris la décision de payer quelqu'un qui soit à côté de moi et qui me coach. Ça, c'est une décision que j'ai prise quand je suis parti du coup en forêt noire. Et à chaque fois, bah, je prends une décision, voilà, je vais faire ça, je vais faire ça. Quand je rentre, je vais faire ça. Et en fait, je pense que c'est bien par moment. Maintenant, moi, je pars en hôtel, forêt noire, etc. Mais vous pouvez même dire, je vais juste camper en été, je prends une tente et je me barre 2 jours, ça coûte moins cher. Mais essayer de couper, moi j'aime bien être aussi en lien avec la nature, donc je vais me promener en forêt, etc. Et c'est vrai que à chaque fois, il y a un truc qui se passe dans mon cerveau et je prends une décision quand je suis là-bas. Donc cette décision-là, et puis en plus je suis rentré après. Donc vous savez que Green Bull Group est actionnaire maintenant d'une société de compléments alimentaires, hein, société Yam Nutrition par Christophe Bonnefond. Et en fait, ils mettent en place, et ça je trouve c'est super bien, ils vont mettre en place à partir du 8 janvier, donc pour toutes les personnes qui achètent pour plus de 100 euros de compléments alimentaires et les personnes qui font partie du Money Game aussi, je vous mets le lien en description dans ce podcast, ils vont faire un challenge du 8 janvier à mi-février, un challenge de 5 semaines avec Christophe va donner des exercices de sport plus un plan alimentaire pour enlever l'excédent de gras, de sucre, etc. qu'on a accumulé pendant les fêtes. Et moi, je trouve que c'est vachement bien. C'est vachement bien. Je suis à fond. Enfin, moi, c'est clair et net, je vais le faire. Je vais essayer de le faire parce que j'ai beaucoup de choses de prévues au mois de janvier. J'ai beaucoup de fêtes de prévues, on va dire. Beaucoup de regroupement d'amis, de famille où il va y avoir beaucoup d'alcool et beaucoup de bouffe. Donc l'anniversaire de ma grand-mère, 80 ans, une cousinade avec tous mes cousins, là ça va être compliqué de ne pas boire d'alcool. Les vœux du maire, parce que je suis infirmier libéral, donc je suis invité, c'est toujours bien, j'aime bien y aller. Donc là on bouffe et on picole. Qu'est-ce qu'il y a encore? Une cochonaille. Donc là c'est sûr qu'on ne va pas manger svelte. J'ai tout ça de prévu au mois de janvier, donc ça va être compliqué. Mais je vais me lancer dans le truc à fond et donc c'est les personnes à qui ça intéresse. Je vous mets aussi mon lien Yam Nutrition. Pour les personnes qui veulent commander des compléments alimentaires, 100 euros de compléments alimentaires, franchement, vous prenez des vitamines, du magnésium, vous prenez un petit peu de whey pour justement aider vos muscles à avoir une forte croissance. On arrive assez rapidement à 100 euros de compléments alimentaires et derrière, bah, vous avez quand même un suivi sur 5 semaines. Je trouve que c'est pas mal. Et sinon, bah, vous rentrez dans le Money Game. Je vous mets le lien aussi et vous y êtes d'office. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool en espérant que bah, avec mon bras et toutes mes tendinites, je vais réussir à tenir le rythme. Et voilà. Je voulais vous parler aussi de donc, la semaine dernière. Cette semaine, on avait la conférence avec tous mes amis de chez Green Bull Campus et moi j'ai dû les quitter parce que j'avais un expert qui passait sur un de mes appartements. J'ai acheté un appartement en 2019 qui avait une verrière sur le toit. C'est un toit plat, hein, c'est un appartement qui est au rez-de-chaussée, il n'y a rien, il y a juste un toit plat au-dessus et l'ancien propriétaire avait mis une verrière. Avait pété le mur et c'était vraiment fait un point de lumière au-dessus. Et il s'avère qu'avec les grelons et tout ça, ça a pété, ça a fait des trous. Et j'ai fait intervenir l'assurance de la copro, parce que le toit fait partie de la copro. Et donc, ils m'ont envoyé un expert. Et c'était la première fois que moi, j'avais un expert physique qui passait. Généralement, je faisais ça par téléphone. Ça se passait relativement bien. Mais on ne sait jamais avec les experts. Enfin, voilà, moi, j'avais un peu un a priori négatif. Et du coup... on avait un devis quand même de 11 700 euros hein, pour refaire cette verrière. Donc il se pointe et au début je le laisse voir. Bon, il me dit tout de suite ouais, oui, bris de glace, etc. Nanana, on voyait vraiment. En fait, c'est une verrière avec une vitre, simple vitrage, et en dessous il y avait encore une autre vitre. Donc l'eau coulait, mais l'eau de vitre en dessous retenait, et c'est la verrière d'au-dessus en simple vitrage qui a pété. On voit le verre qui est posé dessus. Et du coup, j'ai vraiment procrastiné à lancer ce truc-là. J'ai poussé jusqu'au bout. Et là, donc, l'assurance a dit, bon, on vous envoie un expert. Donc, je l'ai laissé parler, un mec qui doit avoir 3-4 ans de plus que moi. Et de fil en aiguille, on a un peu échangé, etc. C'est un mec qui vient de Nice, qui a hérité d'une maison, qui a fait une extension de la maison, donc qui a agrandi la maison par le haut. Il a 5 appartements dans la maison. Il a hérité un peu de terrain, de choses comme ça. Et en fait, il me dit clairement, moi, je bosse, mais c'est plus pour le fun que alimentaire, parce que j'ai des sources de revenus de partout. Donc j'étais, ah bah ça c'est cool, etc., etc. Donc en fait, on a échangé après plus, on est resté presque une heure ensemble, on a échangé plus sur l'investissement immobilier que sur ça. Et sur les 11 700 euros, il prend plus de 60% de prise en charge. Donc voilà, comme quoi il faut pouvoir... il faut arriver à être, à parler avec les gens, à être diplomate, et que ça paye. Je sais pas. Après, est-ce qu'il aurait eu la même prise en charge si j'avais été un con ou si je m'étais pas intéressé à lui? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, je savais que l'assurance prendrait pas en charge la totalité de cette verrière. Et sur les 11 700 euros, je pense que j'ai vu avec mon artisan, mais je pense qu'on peut. On peut baisser, on peut faire autre chose. Donc ça, c'est cool. On va voir, quoi qu'il arrive. Ils m'ont donné une somme de prise en charge, donc après, à moi d'adapter. Mais bon, voilà, c'est un appartement que j'avais extrêmement bien acheté. C'était une verrière qui avait du simple vitrage et que je savais que derrière, elle aurait, dans le temps, dans les 10 années à venir, elle aurait besoin d'être changée. Et là, je vais en profiter pour mettre vraiment quelque chose de solide déjà pour plus avoir à serrer les fesses à chaque fois qu'il y a des grêlons, et peut-être voir pour fermer, pour qu'en fait, parce que moi j'avais, elle se fermait pas, ça veut dire qu'en été il faisait très très chaud, voir pour mettre quelque chose électrique, peut-être des volets électriques pour fermer, pour qu'en été on puisse vraiment avoir moins de chaleur. Voilà, comme quoi il faut toujours s'intéresser. Et en plus, bah voilà, dès que tu branches quelqu'un sur, il m'a dit c'est du Airbnb, etc. Donc j'ai vu qu'il commençait à poser des questions. Je me suis engouffré dans la faille et j'ai vu que derrière c'était un investisseur et que voilà. Et après on a échangé, il a des enfants, etc. Et en fait, je vous dis ça parce que en visite, si vous visitez en direct propriétaire, même avec un agent immobilier que vous connaissez pas, c'est bien de trouver des connexions avec qui parler, des sujets qui pourraient vous relier, en fait, parce qu'on est des êtres humains, et si un agent immobilier ou un vendeur est en face d'un con, eh ben il aura pas envie de faire un effort. Par contre, si vous avez, moi je suis plus du genre à essayer de si mon interlocuteur est cool, je suis plus du genre à essayer de faire un copain, à essayer de parler de choses et d'autres et de revenir après sur le sujet de la négo, plutôt que d'être le mec froid. Mais ça dépend encore, ça c'est toujours pareil. La négociation, on pourrait faire un podcast entier sur la négociation. La négociation, il faut être un caméléon et il faut s'adapter à son interlocuteur. On ne peut pas être pareil avec tout le monde, ça c'est clair et net. Donc voilà pour l'histoire. Donc bon, je m'en sors bien. Je vais peut-être devoir poser 5000 euros, mais en tout cas, j'aurai un truc neuf et on est en LMNP, donc tout ça, ça passe en amortissement. De quoi je voulais vous parler encore? Vous aviez suivi, on avait fait 3 vidéos, on est allé acheter une maison dans la ville de Le Mans, on est allé acheter un appartement à Toulouse et on était allé à Lille où on n'avait rien acheté. Et donc, on a tout vendu et là on récupère notre rapport en compte courant d'associé et on clôture le bilan au 31/12/2023 et on va probablement pour 25% des parts encaisser entre 11 000, 12 000 et 15 000 euros de bénéfices en 2 ans. C'est pas l'affaire du siècle, mais comme dit toujours, c'est mieux que rien. Et on a eu une chiassée d'emmerde. Là où nous, on n'a pas été bon, c'est qu'on a, je pense, sous-estimé le travail à distance. Donc à la base, on devait être 4, finalement, on s'est retrouvé qu'à 3 et presque à 2. Mais je veux dire, on a sous-estimé le travail à distance. On a eu des collaborateurs incompétents du début jusqu'à la fin, hein, que je l'agent immobilier, la personne qui mettait en location au début, je vous parle au Mans là, les artisans. On a dû faire des constats d'huissier parce que les travaux n'étaient pas bien faits, le chantier n'était pas bien fait. Donc on a dû faire intervenir un nouvel artisan pour reprendre les travaux. À Toulouse, on avait l'arnaqueur B, donc là c'est pareil, hein, il nous a mis une bonne carotte, on a perdu 7 ou 8 000 euros, on a dû revenir un nouvel artisan. On avait 1000 euros d'intérêt par mois qu'on perdait, donc derrière ça a décalé la vente de 6 mois. Donc voilà, vous faites le calcul. Mais si on n'avait pas ça, Si on avait été sur place, hein, que ce soit au Mans ou à Toulouse, ça c'est clair, si on avait été sur place, ça ne serait pas arrivé comme ça. Je pense qu'on aurait vraiment, vraiment, on aurait pris, sur les deux apparts, on aurait pris 100 000 euros de bénéfices. C'est certain, c'est certain. Donc on aurait fait une bonne affaire, mais le problème c'est que nous, on est allé sur place, on a visité, on a acheté, et après, what again ? Qui vivra verra, tu vois. Et je pense que là, on n'a pas été bon. On aurait été sur place, on aurait gagné beaucoup plus d'argent, mais on avait chacun nos vies respectives à droite à gauche, et on avait aussi chacun nos business. Yann, il vit à Dubaï, c'est compliqué. Moi, dans l'est de la France, aller au Mans ou à Toulouse, c'est compliqué aussi. Philippe est allé deux fois à Toulouse, mais voilà, on aurait gagné beaucoup plus d'argent, c'est clair et net, quoi. Donc ça reste des investissements rentables, quoi qu'il arrive, même si on a fait de la merde. Ah, ben on a fait de la merde, même si ça s'est mal passé après et qu'on a eu une flopée. Non, mais pour vous dire comment qu'on a enchaîné toutes les merdes, au Mans, on a vendu. Ah ouais, aussi, petit salut à la personne qui commente là tout le temps, là, qui commente sur YouTube là, que la maison du Mans on la vendra jamais ou qu'on baisse les prix, etc. On a quand même pris 40 000 euros de bénéfices, hein, en ayant. Un artisan nul, une mise en location nulle, des agents immobiliers nuls, voilà. Hein, donc, salut. T'as fait 40 000, toi, sur une OP, tu me le diras en commentaire, parce que peut-être tu m'écoutes plus, parce que je te casse à chaque fois, mais en tout cas, ouais, tu m'avais un peu gonflé avec tes commentaires. Bref, je disais, pour vous dire, on a eu une offre d'une association de la ville qui voulait la coloc vide. Donc, on l'a vendu vide. Juste pour vous dire, on dit à l'agent immobilier, on veut trouvez-nous un notaire au Mans qui est correct, parce que nous, on ne connaît pas. Et donc, l'agent immobilier nous donne un notaire. Sauf que l'association a pris le même notaire. Et là, c'est petit conseil du vendredi matin. Ayez toujours chacun votre notaire. Votre notaire, c'est votre avocat. S'il y a un problème, après la vente, ou même pendant la vente, le notaire, s'il est notaire des deux, de l'acheteur et du vendeur, il n'est qu'entre deux chaises. Par contre, si chacun a son notaire, chacun il va vous défendre. Donc nous, on dit à l'agent immobilier, bon, trouvez-nous un notaire avec qui vous avez l'habitude de travailler, qui est efficace et rapide. Et on s'est rendu compte que l'association avait pris le même notaire. Et on est tombé sur une claire de notaire, mais une conne. Je me retiens encore, hein. J'avais dit à mon associé, j'avais dit à Philippe que j'allais mettre un commentaire sur Google et j'allais la nommer, cette claire de notaire. Mais même, on avait une claire de notaire et je pense qu'elle est conne et elle était incompétente parce qu'elle avait aussi une notaire au-dessus de ta tête qui était aussi incompétente. Et du coup, juste pour vous dire, on avait une coloc. Donc, les acheteurs voulaient un bien vide. Donc, les locataires sont sortis et la notaire voulait absolument, absolument, absolument un courrier manuscrit des locataires comme quoi leur sortie vient de leur propre gré, qu'on n'a pas fait de congé pour vente, etc. Et de temps que nous, on comprenne qu'elle voulait juste se protéger d'un droit de préemption. Mais mon associé, c'est pas moi qui m'en occupe parce que je pense que Philippe a quand même beaucoup plus de diplomatie que moi. Et au bout d'un moment, Philippe s'est énervé. Donc pour vous dire, pour énerver Philippe, il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Et il les a appelés, il leur a dit... Il a réussi à leur faire sortir ce droit de préemption, mais il a dit, mais écoutez, on est en LMNP, en coloc. Comment voulez-vous que ces personnes veulent faire un droit de préemption ? Il n'y a pas de droit de préemption de façon en coloc. Donc, Philippe lui a appris son métier. Donc, au final, on a vendu et puis ça s'est bien passé. Ah ouais, ça aussi, le truc de ouf. La SOS fait un prêt. La banque où il contracte le prêt envoie l'offre de prêt au notaire avec qui ils ont l'habitude de travailler, qui n'est pas le notaire qu'ils avaient choisi. Et donc, le notaire qui récupère l'offre s'immisce dans la vente. Et dit, maintenant, moi, je participe à la vente. Alors que depuis le début, et je vous dis, ça, c'est un truc qui date de un an, on a eu la visite et l'offre, la première offre, en décembre 2022. On a vendu en décembre 2023, pour vous dire à quel point le marchand de biens et même l'immobilier, en règle générale, est long. Et donc, on s'est retrouvé à la fin à avoir deux notaires. Pourquoi ? Parce que la banque, elle a fait une erreur, elle a envoyé l'offre. C'est ce que nous, on nous dit. Et c'est toujours pareil. Quand vous êtes à distance, vous pouvez juste croire ce qu'on vous raconte, comme vous n'êtes pas sur place. Donc voilà, il y a eu deux notaires à la fin. Et au final, ça s'est bien passé. On a vendu cette putain de coloc et on prend 40 000 balles à peu près. Donc voilà, tout est bien qui finit bien, mais on s'est bien énervé. Je laisse passer encore un peu de temps. Et si dans... Allez, si en janvier j'ai encore envie de mettre un commentaire sur Google, un avis sur Google, je mettrai un avis et je critiquerai en fait la façon de travailler de cette clerc de notaire. Parce que moi, je voyais les échanges de mails avec Philippe, avec mon associé, et je devenais fou. Mais je préférais le laisser gérer parce que moi j'avais géré la partie travaux. La partie travaux qui s'est mal passée aussi. Donc, j'ai déjà eu ma dose d'énervement. Après, j'ai récupéré la partie gestion avec Citia, gestion Le Mans, mais catastrophique. Je les ai virés. On a pris quelqu'un d'autre. Au final, la personne qui gérait au début gérait bien et après, elle s'est fait virer. Donc, on avait un autre interlocuteur. Enfin, on a eu des merdes sur merde à Toulouse. Donc, on avait l'arnaqueur B qui nous montrait ce qu'il voulait nous montrer, uniquement ce qu'il voulait nous montrer. Quand Philippe allait sur place, on a vraiment vu que les travaux étaient mal faits. Mais pour vous dire, quoi, c'est que la veille de la vente à Toulouse, notre Linky avait cramé, quoi. Pour vous dire, j'aurais presque dû faire un podcast et lister toutes les merdes qu'on a eues entre Le Mans et Toulouse, quoi. Donc, au final, on gagne de l'argent. Au final, ça a duré 2 ans, mais on s'en sort bien. On s'en sort bien. Et donc, si je dois donner des erreurs qu'on a fait ou plutôt des conseils à ne pas faire, des choses à ne pas faire et à faire plutôt mieux que nous, c'est de se déplacer. Minimum une fois par mois. Minimum. Quand c'est en période de travaux, il faut se déplacer une fois par semaine. Et ça, on ne l'a pas fait. Donc voilà. Mais voilà. L'arnaqueur B nous a quand même bien mis dans la merde parce que du coup, on a perdu presque 8 mois de commercialisation. Je voulais revenir aussi sur l'arnaqueur B qui a arnaqué pas que nous, hein, mais qui nous a aussi qui nous a mis une bonne carotte de plus de 19 000 euros et qui a fait des travaux, qui a fait des chantiers pour des membres de l'académie. Et donc il y a eu une petite émission vidéo, une émission télé qui est passée à la télé là, le 20-12. Avec un des membres de l'académie qui est passé sur le plateau télé, qui a exposé les faits et qui a exposé sa perte sèche de plus de 57 000 euros. Je voulais revenir sur ça parce que ça me pose problème. Il y avait un avocat sur le plateau télé, etc. Et c'est comme toujours pareil. Je ne sais même pas si c'est le service public, je ne crois pas que c'est le service public, mais c'est juste avant TPMP et Cyril Hanouna. Donc ça ne vole pas très haut. C'est pas très intelligent. Jean-Pascal, etc. Il précise dans cette émission télé que il a pris une formation sur l'investissement immobilier, donc ça c'est l'Académie des investisseurs immobiliers, et on lui a proposé, il a investi en Normandie, lui il est de Paris, on lui a proposé un artisan, donc il était en confiance. C'est ses propres mots, hein, il était en confiance. Alors les amis, on est 12 connectés là sur Instagram, vous êtes je sais pas combien à m'écouter sur les podcasts. La confiance n'exclut pas le contrôle, mais avec n'importe qui, putain de merde, même si c'est ton meilleur pote, tu vérifies, putain de putain. Tu vas lui filer du pognon. Tu vérifies. Et tout fièrement, c'est cet homme donc, il dit qu'il était en confiance, et tout fièrement, il dit qu'il a versé 40% d'acompte pour avoir le devis. 40% d'acompte pour avoir le devis. Et il est fier, tout fier, sur le plateau télé de le dire. Mais en fait... Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, j'ai fait 5% une fois pour bloquer la date de début de chantier. Pour prouver à l'artisan que moi, j'allais signer le 2, par exemple, chez le notaire et que je voulais qu'il commence le 3. Je lui ai fait un virement d'acompte de 5%. Il a commencé il a commencé à la date qu'il avait dit. Je dis des conneries, mais le 3. Et j'ai versé après seulement 20%. Et ça fait 25%, si tu veux, le premier jour du début du chantier. À aucun moment, À aucun moment, tu verses 40% pour avoir juste un devis. Déjà, rien que ça, ça te met la puce à l'oreille. Et en plus, le pire, c'est que tout ça, on le dit dans la formation. On le dit dans la formation. Yann Darwin a une formation sur l'investissement immobilier et il y a un module sur les travaux et sur les devis. Avec qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut exiger, etc. etc. Donc, il est entièrement fautif à 100%. Et le pire, c'est qu'après, tout heureux, tout souriant, il dit qu'il a... Donc, il a versé les 40% pour le devis. Et après, il a versé 35% pour le début du chantier. C'est-à-dire que quand les mecs ils ont commencé, lui, il avait déjà versé 75%. Non mais allô, quoi. Allô. C'est pas la peine après d'aller sur un plateau télé pour aller pleurnicher. Et je pense que c'était même pas pour pleurnicher, c'était surtout pour se mettre en avant et en valeur, je pense. Parce qu'au final, après, il dit qu'il a le grand Superman qu'il est, il a réussi à terminer les travaux lui tout seul. Et tout le monde l'a applaudi et je pense que c'était surtout ça qu'il cherchait. Voilà, faut pas aller après se plaindre. Surtout qu'après, donc, nous, quand vous prenez l'Académie des investisseurs rentables, vous avez accès à un groupe privé Facebook dont je suis coach. Et je me souviens très bien de ses posts. Et je me souviens très bien qu'on lui a tous dit à 100%, tous, de ne plus rien payer tant que le chantier n'avançait pas. Et lui a repayé encore une fois 20% après. Donc, à un moment, il faut prendre ses responsabilités. La confiance n'exclut pas le contrôle. On n'est pas là pour vous tenir la main non plus et venir avec vous dans tous les chantiers parce qu'au final, vous apprendrez rien, vous ne saurez rien faire. Mais si vous avez un doute, vous avez le groupe privé Facebook pour poser vos questions et nous, on vous oriente. Et là où moi, quand j'ai écouté cette émission, je me suis dit qu'il y a quand même un minimum de mauvaise foi. De mauvaise foi dans ses paroles. L'avocat qui était à charge quand même sur la formation, voilà, nous on a été biaisés aussi à titre personnel, hein. Nous on l'a pris comme artisan, on l'aurait pas pris si on croyait pas au début ses propos, et c'est le propre d'un escroc, c'est de vous faire miroiter que tout est beau, tout est magnifique et que tout va bien se passer et qu'au final il vous met la bonne carotte, quoi. Donc voilà, après d'autres personnes se sont fait baiser, des personnes ont réussi à quand même faire en sorte que les travaux se terminent, etc. Et beaucoup de monde ont perdu. Nous, on a perdu de l'argent, surtout sur le fait que ça a été plus long que prévu, parce que derrière, on l'a viré, on lui a pas donné le dernier solde, et on a dû retrouver un nouvel artisan. Donc tout ça, c'était long. Et on a dû repayer l'artisan. Mais l'artisan, on a dû le payer plus que ce qu'on n'avait pas payé chez lui, et sans compter les délais, avec plus de 1000 euros d'intérêt par mois. Donc voilà, on peut toujours mixer tout ce qu'on veut, chacun peut avoir sa version, etc. Moi, j'avais envie de répondre à ça. J'avais envie de répondre à ça parce que chaque personne, on est tous majeurs, les amis, hein. La confiance n'exclut pas le contrôle. Vous faire un investissement immobilier, il y a une part de risque, mais bien sûr, mais à un moment, il faut prendre ses responsabilités et porter ses couilles aussi. Donc c'était pas lui qui était, il chargeait pas, l'avocat chargeait plus l'organisme de formation. Je tiens à repréciser, Yann l'a déjà dit en long et large en travers, et je pense qu'il a plus envie d'en parler parce qu'il a été assez ouvert à ce niveau là Green Bull Group n'a pas touché un euro de l'arnaqueur B parce qu'ils ont vite senti que ça puait, et on a stoppé dès le départ, on a fait plusieurs zooms avec toutes les personnes qui étaient arnaquées, etc. Donc voilà. À un moment, on donne des conseils, si derrière on raccroche et les conseils sont pas appliqués, faut pas aller sur un plateau télé pleurer. Bref, je vais arrêter parce que ça m'a bien gonflé, ce truc là et puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire. Mercredi, hier, avant-hier, j'ai signé la deuxième vente sur 3 d'un appartement. Donc à l'heure actuelle, entre septembre et décembre, 1, 2, 3 mois, on va dire, en 3 mois j'ai soldé le crédit. Donc la banque m'a prêté à un taux à 6,75 que j'ai réussi à rembourser en 3 mois. Donc je suis très content. Je suis très très content parce que 6,75 ça cause aussi. Et donc là maintenant, la dernière vente est pour récupérer l'apport en compte courant d'associé de mon associé et moi-même, plus le bénéfice. Donc on a un compromis qu'on doit signer. Ça fait 10 jours que nous on l'a signé de notre côté, mais qu'on a un acheteur qui veut tout éplucher, tout étudier et qui est très long. Donc là, ce matin, j'ai mis un bon coup de pression à l'agent immobilier. J'ai dit, écoutez, c'est simple, on est le 22 décembre. Je lui laisse jusqu'au 27 décembre pour signer. Sinon, je vais donner un mandat à deux autres agents immobiliers et je recommercialise cet appartement-là. À un moment, il faut avancer. Donc voilà. À un moment, il faut s'imposer. La confiance n'exclut pas le contrôle. À un moment, faut s'imposer. On peut être sympa, mais il faut savoir s'imposer. Le temps, c'est de l'argent, encore plus en marchant. Donc voilà. Moi, je veux bien qu'on étudie. Je veux bien qu'on étudie tout. Je veux bien que ces acheteurs me font gagner beaucoup d'argent. Mais à un moment, l'offre est proche du. Ça fait un mois l'offre. Le compromis que nous on a signé, il a 10 jours. Selon l'agent immobilier, son notaire est en vacances et il veut le refaire relire à son notaire. Ouais, bullshit. Son notaire, il est en vacances une semaine avant Noël. Non, son notaire sera en vacances à Noël, mais avant Noël, il travaille. Donc, faut arrêter de me raconter la messe. Donc là, j'ai mis un petit coup de pression, gentiment. Voilà. J'ai dit à mon associé ce matin à 8h, j'envoyais déjà des messages. J'ai dit, écoute, je te préviens, là, aujourd'hui, vendredi matin, c'est coup de pression un petit peu. Donc voilà les amis, j'ai fait le podcast de fin d'année que je voulais. Je voulais reparler un peu de ces deux dernières semaines qui étaient nouveau très cool. On va faire le plein de cadeaux. Ah ouais, pareil aussi. J'ai petit retour d'expérience. J'ai mon fils, 14 ans, qui m'a dit qu'il a remarqué que tous les ans les cadeaux étaient plus gros et plus chers. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui réponde à ça ? Moi, je lui ai répondu la première chose, je lui ai répondu plusieurs choses. Je lui ai dit, la première chose, c'est que je peux. C'est qu'on peut, sinon on ne le ferait pas. J'ai dit, sur ton compte en banque, tu n'as pas l'argent, c'est difficile d'acheter quelque chose que tu ne peux pas acheter parce que tu n'as pas l'argent. Donc, la première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est te faire plaisir me fait plaisir. Vous acheter des choses et vous voir heureux, à déballer des cadeaux et avoir des cadeaux, ça nous rend heureux aussi. Moi, j'ai besoin de rien. Si j'ai besoin de quelque chose, je me l'achète. J'ai pas besoin qu'on m'offre quelque chose. Et j'ai pas besoin de grand chose pour être heureux. Hein. Être en bonne santé et pouvoir continuer à faire ce que j'aime, ça, c'est tout ce que je demande. Et je lui dis aussi, je lui dis, et en fait, il parlait de basket. Hein. Je lui ai acheté des. Il a une trottinette. Il pensait que la trottinette, on lui avait dit aussi que la trottinette, ça serait le seul cadeau. Mais en même temps, moi, je lui ai racheté des baskets à 140 euros. Et pourquoi je lui ai racheté des baskets à 140 euros ? Parce que déjà, il a eu un très bon bulletin, les profs ont dit qu'il est en troisième, et les profs ont dit que c'était très bien, etc. etc. À la maison, c'est pas un petit con, il nous répond pas. Tu lui demandes quelque chose, des fois, il faut répéter deux fois avant que ça soit fait, mais c'est fait. Et cet été, je lui avais acheté des baskets, des basses, des blanches, mais blanches. Je lui ai dit, mec, elles ont plutôt intérêt de rester blanches jusqu'à Noël. Et en fait, bah, il allait en cours avec, il est rentré, il les nettoyait, il en prenait soin. Et c'est ça, en fait. C'est ça, c'est la valeur. Donc, la valeur argent, déjà, ça, il l'a compris parce qu'il voit ce qu'on paye pour l'acheter des baskets. Mais moi, je ne veux pas qu'on achète des baskets. Je ne veux pas acheter des baskets à 140 euros que ces baskets-là, au bout de deux semaines, elles sont éclatées, elles sont sales, etc. etc. Ça s'appelle la valeur des choses. Donc, moi, je passe devant l'armoire, je vois que les baskets, elles sont nickel et elles datent de juillet et qu'on est en décembre. Ben, je me suis dit, je vais lui en acheter des hautes. J'ai dit, vas-y, choisis, va sur le site courir, choisis-toi des baskets. Donc, ça, je lui ai dit. Je lui ai dit, si j'avais vu que tes baskets étaient dégueulasses, eh ben, t'en aurais pas des nouvelles. Il y a ça. Je lui ai dit, bah, c'est pas gratuit non plus parce que là tu vas être en vacances à partir de vendredi et tu vas avoir deux semaines de vacances et je vais te donner un peu de taf. J'ai acheté une nouvelle voiture, là j'ai récupéré une petite voiture d'un petit monsieur et elle est un peu sale, donc j'ai dit tu vas nettoyer toutes les voitures pendant les vacances et puis je te donnerai encore 2-3 bricoles à travailler. Donc j'ai dit, c'est pas gratuit, et voilà. Donc et puis je lui dis aussi que voilà, son frère et sa sœur avaient des cadeaux pour un montant de temps et que même lui, si sa trottinette elle avait un certain prix, on était un peu en dessous. Donc je voulais avoir l'égalité. Je voulais avoir l'égalité entre les frères et sœurs. Et donc voilà pourquoi, comment expliquer ça. Mais plusieurs fois il a posé la question. Donc déjà il a cette notion où c'est pas un dû, cette notion de la somme élevée. Quand même, Et après, j'ai encore réexpliqué que tout ça, je le fais parce que tout ça, je peux le faire parce que j'ai fait des choix dans ma vie. J'ai fait des investissements, j'ai pris des choix. Tout est une question de choix dans la vie, hein. J'aurais pu être infirmier à l'hôpital encore pendant 20 ans et gagner 1600 euros par mois. J'ai pris un moment, un tournant de me lancer dans le libéral. Et j'ai pris un tournant après de me lancer dans l'entrepreneuriat avec les Nature House. Tout en parallèle, j'ai pris un tournant d'acheter de l'immobilier. J'aurais pu acheter de l'immobilier standard et délégué. Non, j'ai pris un tournant d'acheter de l'immobilier à forte rénovation. J'ai dû vider des maisons parce que derrière les maisons étaient pleines avec des slibards dégueulasses, avec des fringues, avec des rats, avec des souris, avec de la merde. J'ai bouffé de la poussière parce que j'ai fait les démolitions moi-même. Voilà. Voilà, ça je lui ai même pas dit, mais j'aurais pu lui dire. J'ai bouffé de la merde pour pouvoir vous acheter des cadeaux aujourd'hui qui me font plaisir. Donc voilà, ça c'était. On conclura sur ça, les amis. Hein, on conclura sur ça parce que il faut absolument que j'appelle un mandataire judiciaire encore aujourd'hui avant les vacances. Et cette personne est joignable que de 10h30 à 11h. Et il est 10h45 pour les personnes qui m'écoutent sur le podcast. Vous avez tous les liens en description. L'incubateur marchand de biens, l'académie des investisseurs rentables, le Money Game, les amis. Hein, rejoignez-nous dans Money Game. Yann a mis une publication hier sur une nouvelle crypto que lui, personnellement, achète. Vous avez aussi le lien Yam Nutrition, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux. Mettez-moi un commentaire, mettez-moi 5 étoiles un petit peu là, on n'a pas eu de commentaire depuis novembre, ça serait cool. Et je vous dis à plus, ciao ciao.